Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Illuminez mes yeux de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise « je l'ai vaincu ». Mes très chers frères, les textes de la messe de ce quatrième dimanche après la Pentecôte sont composés pour la plupart d'appels à Dieu. L'Église nous apprend à gémir, non comme des victimes impatientes qui secouent le joug, mais comme les exilés que bien souvent nous oublions que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, voir certaines grandes vérités, essentiellement tirées de l'épître de Saint Paul aux Romains, que nous essaierons d'approfondir quelque peu. Nous aurons plusieurs choses à voir. En premier lieu, nous verrons en quoi consiste la conviction profonde de l'apôtre sur les souffrances d'ici-bas. Nous verrons aussi son enseignement sur leur disproportion avec la gloire qui nous attend. Et nous verrons aussi quelque chose sur la fonction des souffrances. Ensuite, nous essaierons d'approfondir avec l'aide de la tradition un passage difficile de Saint Paul lorsqu'il parle de la création qui attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. C'est un passage connu puisqu'il revient toutes les années. Dans ce dimanche, mais il est assez difficile à comprendre. En fait, il est assez facile à comprendre, mais moyennant qu'on donne la clé. Alors nous allons essayer de voir en quoi il consiste. Nous verrons comment donc la création soupire après la délivrance et comment elle est soumise, en quoi consiste, disons, le fait qu'elle est soumise, d'après sa doctrine, à la vanité. Et enfin, nous terminerons par certaines considérations sur les gémissements de l'exil, et puis nous verrons comment l'intelligence est illuminée. Et nous verrons que pour cela, l'Église nous apprend à prier d'une façon très spécifique. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit Saint Paul aux Romains. Mes frères, je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous. N'allons pas trop vite, car c'est une épître qui est très profonde, et si nous la comprenons bien, nous allons, avec l'aide de Dieu, pouvoir bien commencer cette deuxième partie de l'année liturgique qui s'amorce, puisque nous ne sommes qu'au quatrième dimanche après la Pentecôte, et il y en a, comme vous le savez, 24. Mes frères, je suis persuadé. Existimo, quod non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram gloriam, quae reveritur in nobis. Je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous. Mes très chers frères, puissions-nous être nous aussi persuadés de cette vérité que Saint Paul, aussi persuadés de cette vérité que Saint Paul lui-même, nous dit un auteur. Puissions-nous être persuadés autant que lui. Voyez, prenons le temps de bien lire la parole de Dieu. Il dit, je suis persuadé que les souffrances de la vie présente. Donc ce n'est pas Saint Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'aimait pas, ou Saint Paul par le Saint-Esprit, n'aimait pas une opinion qui n'engage que lui, comme on dit. Hein, c'est la formule classique, les opinions n'engagent que celui qui les professe. Non. J'estime, donc le Saint-Esprit estime, donc vous devez aussi estimer. Vous voyez, la parole de Dieu nous donne souvent des ordres, des commandements positifs, des comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu, des commandements négatifs, tu ne voleras pas, et elle nous donne aussi des ordres qui sont beaucoup plus que des ordres, ce sont, en quelque sorte, si j'ose faire le jeu de mots avec ordre et ordonnation, ce sont des affirmations qui, lorsque nous les faisons nôtres, mettent de l'ordre dans notre esprit et nous apprennent à penser droitement. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, dans la dissidence ou ailleurs, disent « il faut penser droitement, pense droit, pense bien, marche droit, etc. » Bon, c'est bien connu. Qu'est-ce que ça veut dire « penser droitement » ? Penser droitement, c'est uniquement penser comme le Saint-Esprit. Si vous pensez, vous croyez penser droitement en pensant comme un tel ou d'autres, ou même des gens qui sont tout à fait autorisés, mais et vous pensez que c'est ça penser droitement, et vous pensez aussi que les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, peuvent penser droitement dans la mesure où ils s'alignent sur la pensée de tel ou tel. Et si vous le pensez, vous vous trompez. Vous vous trompez gravement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut penser droitement que quand on pense comme saint Paul, que quand on pense comme le Saint-Esprit. Et si l'on n'est pas dans des dispositions de pouvoir penser comme saint Paul et le Saint-Esprit, c'est-à-dire si l'on n'est pas chrétien, si l'on n'est pas catholique plus précisément, eh bien, c'est que l'on est absolument incapable de penser droitement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de penser différemment que d'autres pensent, mais on pense tous d'une façon qui n'est pas droite. Puissions-nous être nous-mêmes aussi persuadés que de cette vérité que saint Paul lui-même. Je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous. Ce n'est pas, nous n'avons pas le choix, mes très chers frères. Nous devons penser comme cela, sinon nous pensons d'une façon dissidente, et donc nous nous trompons, puisqu'on ne peut pas penser autrement que celui qui est la lumière même de l'intelligence, c'est-à-dire le Saint-Esprit. L'apôtre venait dans le contexte, si vous lisez l'Épître dans le Nouveau Testament, l'apôtre venait juste de dire qu'il nous faut souffrir avec le Christ si nous voulons être glorifiés avec lui. C'est une formule qui revient assez souvent et qui est bien connue, évidemment. C'est la condition pour pouvoir être glorifié avec le Christ. Si nous ne souffrons pas avec le Christ et à cause du Christ et dans le Christ ici-bas, eh bien, nous ne serons pas glorifiés avec lui dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il dit lui-même à plusieurs endroits dans l'Évangile, il dit si quelqu'un me confesse ici-bas, je le confesserai aussi devant mon Père. Si quelqu'un me renie ici-bas, je le renierai aussi devant mon Père. D'une certaine manière, ce n'est que justice, mais c'est la justice de la grâce, évidemment, car on ne peut confesser le Christ que par la grâce de Dieu. Néanmoins, ce n'est que justice. Vous ne le confessez pas ici-bas, il ne vous confessera pas dans l'au-delà, au grand jour du jugement. Vous ne souffrez pas avec lui aujourd'hui, ici-bas, vous ne serez pas glorifié. Alors vous allez dire, c'est moins évident, reconnaître le Christ, c'est être reconnu, mériter d'être reconnu par lui plus tard, d'une certaine manière on comprend, mais souffrir avec lui pour être glorifié avec lui, et si nous échappions à la souffrance et nous étions quand même glorifiés, après tout, tout est par grâce, etc. Alors mes très chers frères, ne jouez pas avec la théologie catholique parce que ce n'est pas bien. Bien sûr que tout est par grâce. C'est par grâce que nous souffrons ici-bas, afin que par grâce nous puissions être glorifiés dans l'au-delà. Donc vous voyez, mes très chers frères, soyons attentifs à ce que nous dit saint Paul. Il nous dit « Je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui un jour se manifester en nous. Nous devons souffrir avec le Christ ici-bas, mais si nous commencions à être effrayés par les paroles de saint Paul en nous disant si la souffrance d'ici-bas doit avoir une certaine proportion avec la gloire, parce qu'on a quand même une certaine idée de la gloire quand on est chrétien, il suffit de penser à la gloire de Dieu et puis de regarder l'iconographie chrétienne, on voit le Christ en gloire, on s'imagine bien que c'est quelque chose qui dépasse toute mesure. Alors si nos souffrances doivent dépasser toute mesure afin que nous puissions être glorifiés de la même manière et proportionnellement, il y a de quoi être effrayé. Mais que nous dit saint Paul immédiatement après ? Je suis persuadé, c'est-à-dire je sais, hein, persuadé, attention, aujourd'hui tout est dévalué, quand on dit je crois, ça veut dire je ne suis pas sûr, merci pour le credo, quand on dit je suis persuadé, ça veut dire je n'ai quasiment aucune idée, quand on dit je suis persuadé qu'il ment, ça veut dire j'ai quelque chose me dit mais je n'en suis pas sûr, je suis persuadé veut dire je sais totalement, oui, je suis persuadé, existimo, je sais, j'ai cette estimation dans l'esprit, je connais la vérité, et je vous l'ai dit, je suis persuadé, de ceci, les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion. Ce n'est pas une opinion douteuse, c'est une opinion certaine, c'est une croyance. Les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous. Donc pour les esprits pusillanimes, les esprits faibles, les esprits un peu portés au désespoir, saint Paul leur dit « ne vous découragez pas, parce que le peu que nous avons à souffrir ici-bas, alors, ce n'est pas du cynisme, parce qu'il faut penser aux martyrs quand on souffre, il ne faut pas penser à nous qui souffrons et nos petites souffrances, il faut penser aux martyrs. Mais même les martyrs, le peu que nous avons à souffrir ici-bas, occasionnera une récolte presque disproportionnée, presque infinie dans l'au-delà. Il y a d'une part une causalité, pour parler un peu comme les théologiens, il y a d'une part une causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance, et d'autre part, il y a une disproportion. C'est-à-dire cette disproportion, néanmoins, n'est pas une disproportion qui doit nous faire considérer que les récompenses que Dieu nous donne sont en quelque sorte au rabais. C'est-à-dire qu'il nous dit, bon, ben, souffrez un petit peu ici en attendant, et puis après, je vous donnerai plein de choses. Un petit peu comme on dit à un petit enfant, et à juste titre, et il faut le dire si c'est utile, il faut le dire, tiens, tu attends un petit peu, tu es sage, et puis après, maman, elle te donne une belle surprise, une sucette, que sais-je, un bonbon, quelque chose. Ce n'est pas exactement ça de ça dont il s'agit ici-là. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus, si j'ose dire, c'est beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire que les souffrances d'ici-bas sont à la gloire dans l'au-delà, ou dans le ciel plus précisément, ce que le grain de blé qui est jeté en terre et qui meurt est à l'épi. C'est-à-dire que si on a un grain de blé, on ne peut pas dire, on va le mettre dans une machine à multiplier qui n'existe pas, et il va y avoir, on va cloner le grain de blé de façon indéfinie. Non, qu'est-ce qu'on fait? On prend le grain de blé, on le jette en terre, on le recouvre, il meurt d'une certaine manière, c'est-à-dire il n'est plus grain de blé, le grain de blé disparaît, il n'y a plus de grain de blé, il y a une plante. Cette plante pousse et au temps opportun, elle porte 30, 50, 100 pour 1. Donc voyez mes très chers frères, saint Paul ne nous dit pas ici d'une façon romantique « souffrez un petit peu et puis vous verrez, il y aura des choses merveilleuses après ». Non, il dit « vous devez comprendre que la souffrance du chrétien, les souffrances de la vie présente, les souffrances du chrétien, sont sans proportion avec la gloire à venir, comme le grain unique de blé que l'on plante porte beaucoup de grains de blé, un épi rempli de beaucoup de grains de blé plus tard dans l'année. » Donc vous voyez, nous ne sommes pas ici dans des propos grandiloquents, nous ne sommes pas ici dans des encouragements à bon compte, où il nous dit, voyez, des choses qui peuvent nous calmer un petit peu les gens qui souffrent. Non, il nous dit, comprenez la vérité, écoutez ce que je vous apporte de la part du Saint-Esprit, car je sais ce que je dis. Les souffrances d'ici-bas sont sans proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester, être manifestée en nous, plus précisément, être révélée en nous. Il y a, mes très chers frères, nous sommes sujets à une certaine illusion. Et cette illusion, elle est en quelque sorte innocente de notre part, c'est-à-dire que c'est l'illusion qui vient de notre seule expérience, du fait que notre seule expérience est celle de la temporalité. Nous sommes nés dans le temps, nous ne sommes pas des anges qui ont été créés par Dieu et qui vivent ils opèrent dans le temps, mais disons qu'ils contemplent aussi Dieu dans l'éternité. Nous ne sommes que des pauvres créatures qui plus est déchues. Donc il se trouve que notre seule expérience est l'expérience du temps, et cette expérience du temps est une expérience qui à la fois nous fait penser que la vie passe trop vite, et d'un autre côté que les choses n'arrivent pas assez rapidement. Vous voyez ? Donc il se trouve que nous devons comprendre que saint Paul ici, bien plus que nous encourager avec des paroles qui sont finalement des paroles assez superficielles, il nous apprend l'intelligence vraie, et nous verrons vers la fin de ce sermon certaines choses sur la véritable intelligence illuminée. Saint Paul nous apprend à comprendre comme des hommes, et non pas à nous comporter comme des enfants, mais dans le mauvais sens du terme. Nous devons être des enfants, mais alors des enfants qui font confiance à ce que leur dit saint Paul, et qui savent, parce que saint Paul le leur a dit, que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire à venir. Et non pas comme des gens qui doutent en disant « oui, mais moi, il me semble que je souffre et que j'ai quand même assez souffert, il me semble que si ça est l'autre ». Non, non, il ne vous semble rien du tout, vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes dans une sorte d'illusion, encore une fois innocente, ce n'est pas un mal en soi, ce n'est pas le diable qui nous illusionne, c'est parce que nous sommes déchus et il nous semble que rien ne dépasse la temporalité dans laquelle nous vivons. Or, si nous voulons ne pas perdre notre temps et sortir de cette illusion, plus précisément, il nous faut comprendre que la patience, cette fameuse patience dont l'Écriture nous parle constamment, la patience que nous devons exercer, qui est une vertu, eh bien, consiste dans, c'est l'apprentissage de l'intelligence des saints. La patience, c'est la patience dans les souffrances, quelles qu'elles soient, morales ou physiques, ou autres. La patience, c'est la patience qui est l'intelligence qu'a le cultivateur, qu'a le paysan, qui a jeté son grain en terre, de ne pas... Il a la patience et l'intelligence de ne pas aller déterrer pour voir ce qui se passe. Il a l'intelligence de ne pas aller constamment voir ce qui se passe, alors je parle d'une façon un peu schématique, pour essayer de hâter les choses, ou bien de s'assurer que les choses se passent bien comme il faut, ou alors la sagesse de ne pas se comporter comme un insensé qui, d'une certaine manière, quelques jours après avoir semé la semence, se repent et va essayer de récupérer les grains qui sont déjà à moitié pourris dans la terre, pour parler, disons, grossièrement, et se dire, non, j'ai jeté quelque chose qui pourrait me procurer du pain, etc. Vous voyez, la patience, alors vous allez dire, tout ça, c'est normal, on n'a jamais vu un paysan aller déterrer ses graines sous prétexte qu'il a fait une bêtise. Bien entendu. Alors, si c'est vrai pour certains métiers, certains états, ayons aussi cette intelligence pour notre état de chrétien. Comprenons que par la patience, nous apprenons l'intelligence des saints. Comprenons que cette intelligence des saints comprend qu'une goutte de fiel dans le calice, bu au calice du Christ, je paraphrase un ancien auteur, a pour produit un poids éternel de gloire, pour parler comme saint Paul. Comprenons cette chose une fois pour toutes. Vous allez dire, je souffre, je n'arrive pas à comprendre. Pastoralement, vous mettez vos directeurs, vos prêtres, vos évêques dans une situation embarrassante. Si la personne qui souffre ne fait pas l'effort d'être patiente comme saint Paul veut qu'elle le soit, et ne fait pas l'effort à ce moment-là d'intelliger, c'est-à-dire d'intégrer l'intelligence des saints, mais quand est-ce qu'elle l'acquérera cette intelligence? Quand elle ira bien, sans doute, elle pourrait écouter un sermon comme celui-ci ou lire les bons livres et puis dire, mais voilà, la disproportion, gloire, etc. Oui, mais ça, c'est facile à dire, mais quand on souffre, il faut justement faire cet apprentissage de la patience sur le terrain. Vous voyez, et ce n'est pas comme on dit sur le tas, c'est l'école de la souffrance. Il faut que nous nous persuadions, comme saint Paul, que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour être révélée en nous. Apprenons-le, mes très chers frères. Ne passons pas notre vie à désirer mollement, apprendre ceci et entre-temps à nous plaindre, à nous révolter, etc. Apprenons-le vite. Apprenons-le comme un étudiant, comme un élève, comme un apprenti qui est en apprentissage. Il apprend pendant les 2, 3, 5, 10 ans, je ne sais pas, de son apprentissage. Il apprend et ensuite il devient un maître. On ne passe pas toute sa vie à l'école. On va à l'école d'une manière ou d'une autre pendant sa vie, pendant un petit moment de sa vie. Pourquoi ? Pour faire usage de ce qu'on a appris. Apprenons, mes très chers frères, pendant que nous souffrons, apprenons cela. Alors vous allez dire, c'est difficile. Mais bien entendu, tout étudiant va vous dire que c'est difficile, tout écolier va vous dire que c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Apprenons-le, vous voyez, n'apprenons pas à désirer, apprendre, apprenons. Vous allez dire, vous êtes très roboratif, ça me prend un peu de cours. Il faut le faire, mes très chers frères, parce qu'il y a plein d'autres choses. Si l'on passe toute sa vie sur les bancs de l'école, ce n'est pas forcément une mauvaise occupation, mais on perd un temps infini, si je veux dire. D'ailleurs, le temps n'est pas infini. Une goutte du calice de fiel de notre Seigneur Jésus-Christ produit un poids éternel de gloire. C'est une certitude que nous devons avoir. Avançons un petit peu maintenant. Saint Paul dit « aucune proportion avec la gloire qui doit un jour se manifester en nous ». Les commentateurs disent, saint Paul dit bien la gloire et non pas le repos. Saint Paul ne nous dit pas « souffrez un petit peu et un jour vous reposerez ». C'est dit ailleurs dans l'Écriture parce que c'est aussi vrai, parce que c'est un repos glorieux. Mais les commentateurs nous disent que il ne dit pas repos parce que il peut y avoir un repos sans gloire. Mais ce n'est pas simplement un repos simple où on ne souffre plus, mais c'est une gloire. C'est-à-dire que vous devez comprendre, nous devons comprendre et nous devons nous en persuader, faire un effort pour nous en persuader, que tout ce que nous souffrons ici-bas, pour l'amour de Dieu, cela va sans dire, produit aussi certainement que le grain qui est jeté en terre produit un épi, produit la gloire. Cette gloire, nous dit encore la tradition, cette gloire, il ne dit pas qu'elle nous sera donnée, mais qu'elle sera révélée, manifestée. Il dit « Gloriam quae revelabitur in nobis », qui sera révélé en nous. Non pas qui nous sera donné, non pas qui nous sera donné comme une récompense que nous n'avons pas encore ici-bas. Vous vous souvenez cette maxime de la théologie qui est très très connue, c'est que la semence de la gloire, c'est la grâce. La grâce est la semence de gloire. la gloire est, nous disent les commentateurs, déjà en nous, mais sous forme de grâce, comme l'épi est déjà dans le grain qui est jeté en terre. Est-ce que le cultivateur jette en terre un épi? Non, il jette un grain parce qu'il a, par sa connaissance, la certitude, et sinon il ne le ferait pas, que l'épi est dans le grain. Nous-mêmes, si nous acceptons les souffrances qui nous sont données, imposées ici-bas par la Providence, nous devons avoir la certitude que dans ces souffrances, c'est-à-dire dans la grâce qui nous est donnée pour supporter ces souffrances, à la gloire de Dieu, est contenue déjà la gloire. La gloire ne sera donc moins une récompense ex nihilo, si j'ose dire, qui nous sera donnée par la suite, que le développement de quelque chose qui aura cru, du verbe croître, en nous, dès ici-bas, par la bonne attitude. Vous voyez, si le paysan jette sa semence dans un étang, s'il jette sa semence dans un baril d'acide sulfurique, il a jeté sa semence comme le paysan qui le jette dans la bonne terre. La seule chose, il ne l'a pas jeté dans le bon endroit. Et il va dire, l'épi était dans le grain. Oui, certes, il l'était, mais le grain n'existe plus. Mais quelle est la différence entre un grain qui est dissous dans l'acide sulfurique et un grain qui meurt en terre? C'est qu'il est normal que le grain meure en terre pour pouvoir ressusciter épi. Tandis que si vous le jetez dans l'acide sulfurique, le grain meurt, c'est vrai, il disparaît à peu près comme disparaît le grain en terre. La seule chose, il ne ressuscite pas. Vous voyez, mes très chers frères, si nous jetons le grain de notre souffrance dans la charité, si j'ose dire, alors il ressuscitera épi de gloire. Mais si nous le jetons dans les récriminations, dans l'amertume, l'amertume c'est une sorte de bile qui va digérer le grain et il va devenir stérile, il va mourir. Il va véritablement mourir, non pas pour ressusciter, mais pour disparaître. Donc saint Paul ne nous dit pas, vous aurez souffré un petit peu, Dieu vous prépare un repos de souffrance pour la suite. Il dit, Dieu vous prépare une gloire et cette gloire sera révélée en nous. C'est donc, nous dit un auteur, c'est donc une gloire qui, quoique cachée, opère déjà en nous. La grâce qui nous est donnée, et c'est pour ça que nous ne devons jamais douter que Dieu nous donne sa grâce, car il n'y a aucune raison que Dieu refuse sa grâce, mais Dieu ne refuse pas sa grâce, sauf si nous sommes orgueilleux, alors soyons humbles. Dieu nous donne sa grâce, et sa grâce étant semence de gloire, avec la grâce, il y a déjà en possibilité, en germe, la gloire. Elle opère déjà cette gloire, sous la forme de la grâce. Votre vie, dit saint Paul, est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Nous sommes véritablement comme des grains qui sont cachés dans la terre, qui souffront une sorte de mort, mais pour pouvoir ressusciter. Votre vie est cachée en Dieu, dans le Christ. Il faut attendre le délai de cette vie, nous disent les auteurs, car Dieu réserve la gloire pour l'autre. Pourquoi? Parce que cette vie-ci n'est pas digne de la gloire qui doit être révélée en nous. Alors nous pourrions dire beaucoup de choses sur la gloire, sur la nature de cette gloire et sur ses manifestations, mais je crois qu'il est plus utile peut-être de continuer à explorer cette doctrine sur le bon usage des souffrances. Cette gloire, donc, c'est la récompense, c'est la participation à Dieu, et c'est aussi la résurrection de nos corps, c'est-à-dire le triomphe de l'immortalité divine sur la mortalité telle qu'elle a été introduite dans le monde par le péché de notre premier père sous l'influence du diable. Donc, saint Paul dit les passions, les souffrances, non sunt condignae passiones uius. Alors c'est les passions, pas au sens de passion que nous subissons, les mauvaises passions, mais ce sont les choses qui nous sont données à souffrir. Il y a ici quelque chose de difficile à expliquer, enfin difficile, de pénible à expliquer quand on est pasteur, c'est parce que c'est assez cruel, ça semble assez cruel. Mais c'est vrai pour tout le monde. Les souffrances sont le partage de cette vie d'ici-bas. Vous voyez, le Bouddha a médité sur les souffrances et il en a tiré une religion qui n'est pas la bonne, évidemment, mais au moins il avait compris une chose, c'est qu'ici-bas, les souffrances, on ne peut pas échapper aux souffrances. Alors il a essayé de échapper aux souffrances, mais c'est là où notre intérêt pour lui s'arrête. Les souffrances, tout le monde reconnaît qu'elles émaillent cette vie d'ici-bas. On ne peut pas vivre sans souffrir d'une manière ou d'une autre. Et si nous ne souffrons pas physiquement, nous souffrons moralement. Et si nous ne souffrons pas moralement, nous avons certaines vicissitudes matérielles ou autres. Il y a toujours un aspect de souffrance. Pourquoi? Eh bien, faisons-nous une raison, mes très chers frères. C'est parce que, déjà, d'une part, nous ne sommes plus dans le paradis originel. Nous ne sommes plus dans l'état d'innocence. Nous vivons dans le monde déchu. Et nous sommes aussi dans la plus basse sphère, dans la cosmologie chrétienne, nous sommes dans la plus basse sphère, si on accepte l'enfer. C'est-à-dire que nous sommes sous la lune, qui est le monde de la corruption et la génération, c'est-à-dire le monde des cycles. Au-delà, il n'y a plus tout cela. C'est pour ça que la Sainte Vierge, qui est au-delà de cela, met les pieds sur les pieds, représentée avec les pieds sur la lune, puisqu'elle elle surmonte, elle domine la lune, elle est au-delà de ce monde de vicissitudes et de souffrances. Tandis que nous y sommes encore, c'est pour cela qu'elle est notre avocate. Nous y sommes encore. Donc, il faut s'y faire, déjà, il faut s'y faire comme n'importe quel sage, selon le monde, peut s'y faire. Voilà, il ne faut pas s'imaginer qu'il peut y avoir une vie sans souffrance. Arrêtons de nous dire, s'il y avait plus de ça, putain, s'il n'y avait pas ceci, cela, s'il n'y avait pas celui-là, et ça, ma vie ne serait pas une souffrance. Les souffrances seraient différentes, simplement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on nous dit, voilà, si telle ou telle personne, tel ou tel peuple, etc., n'existait plus, le monde serait dans une paix. Oh là là, faisons très attention à la paix universelle, c'est l'avant-garde de la fin. Il y aura toujours des souffrances. Il y aura toujours des souffrances. Elles sont le partage de cette vie. Il faut exercer, en revanche, notre discernement pour pouvoir comprendre d'où viennent et à quoi servent ces souffrances. Les souffrances, d'où viennent-elles? Elles viennent du péché. Avant la chute, nos parents ne connaissaient pas les souffrances, aucune souffrance. Le fruit de l'arbre de vie leur permettait de vivre sans maladie, sans vieillir, sans aucune vicissitude, et l'état d'innocence avec toutes les grâces qui y étaient attachées leur permettait de vivre tout à fait exempt de la concupiscence et bien entendu du péché. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. D'où viennent les souffrances? Elles viennent du péché. Que ce soit nos péchés ou les péchés des autres, ça vient du péché. Elles viennent du péché. Maintenant, à quoi servent-elles? Maintenant qu'on sait d'où elles viennent du péché. À quoi servent-elles? Eh bien, c'est difficile à dire parce que c'est un peu cruel, mais en réalité, c'est vrai pour tout le monde. Les souffrances servent avant tout et premièrement à châtier les péchés que nous avons commis. Ne nous imaginons pas que nous avons si bien soldé nos comptes avec le bon Dieu qu'il ne nous doit, il ne doit plus, il ne doit, nous n'avons plus aucun, nous ne lui devons plus rien, et que désormais toutes les souffrances que nous souffrons sont purement gratuites, et elles sont tellement gratuites que le bon Dieu pourrait nous soulager, etc., parce qu'il exagère, etc. Arrêtons-nous. Nous avons péché. Alors vous allez dire, mais depuis que je suis baptisé, j'ai été baptisé enfant, j'ai gardé l'innocence baptismale jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi je devrais souffrir. Eh bien, mon très cher frère, vous allez commencer à faire pénitence parce que l'innocence baptismale, ça fait longtemps que, si vous tenez ce discours-là, ça fait très longtemps que vous l'avez perdu. Non, non. Croyez bien que il y a eu des saints qui ont gardé l'innocence de leur baptême, alors même qu'ils avaient été baptisés enfant. Cela est arrivé et pas qu'une fois. Eh bien, ceux-là étaient les premiers à confesser leurs péchés, les premiers à expier pour les péchés des autres, les premiers à expier pour leurs propres péchés, alors vous allez dire, mais lesquels? Alors, on va y revenir, les premiers aussi à reconnaître que sans la grâce de Dieu, ils ne seraient que d'horribles pécheurs comme les autres, même s'ils ne formulaient pas ainsi. Quel péché? Avant d'être baptisés et de garder cette innocence baptismale, nous sommes nés avec le péché originel. Et rien que cela, rien que le fait d'avoir existé une fois dans sa vie, si cette expression a un sens quand même, rien que le fait d'avoir existé pendant quelques temps, quelques jours, quelques heures, quelques mois quand même avant de naître, marqué par le péché originel, sert à justifier amplement le fait que nous souffrions et que nous souffrions pour nos péchés. Même si nous avons gardé l'innocence baptismale depuis notre baptême, nous avons le péché originel. Alors vous allez dire, mais ce n'est pas notre péché, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que nous avons encore d'autres choses à dire, mais il se trouve que, soyons humbles, je ne crois pas que l'exemple que j'ai donné concerne beaucoup de monde, certainement pas moi. Alors, la souffrance sert avant tout, essentiellement, et probablement jusqu'à la fin de notre vie, à châtier nos péchés. Mettons-le nous en tête, une fois pour toutes, et cessons d'essayer de trouver d'autres raisons à nos souffrances que le châtiment pour les péchés que nous avons commis. Il y a une autre fonction, encore d'autres fonctions, j'en donnerai trois. Le châtiment de nos péchés. Deuxièmement, la préservation aussi, on y pense très peu, mais la préservation des péchés que nous pourrions faire si nous ne souffrions pas. Je vais prendre un exemple tout à fait stupide, comme ça personne ne se sentira visé. Voilà un enfant qui naît avec un pied beau, qui naît avec un pied qui est plus court que l'autre. C'est une disgrâce, c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose d'humiliant. Alors il faut marcher avec des chaussures spéciales, etc. Il faut... c'est humiliant, c'est une suite du péché originel. C'est une suite du péché originel. Et ça n'empêche pas qu'on peut être saint, etc. Bien entendu, mais sinon c'est une souffrance. C'est une souffrance. Eh bien qui sait, personne ne le sait, mais Dieu le sait, mais nous pouvons le dire, puisque c'est un cas théorique, qui sait si cet enfant... Le diable n'aurait pas voulu en faire un champion de course qui aurait été complètement dans les compétitions mondaines et qui se serait gonflé d'orgueil suite à cette réussite parce qu'il aurait été un grand coureur et qui se serait damné parce que gonflé d'orgueil, il n'aurait jamais pensé à se tourner vers Dieu. Vous allez dire, c'est un exemple ridicule. Je vous ai dit que c'était un exemple théorique. Évidemment, c'est un exemple un peu caricatural. Mais combien de fois avons-nous entendu des histoires de gens qui, par exemple, ratent leur avion, ratent leur train. Et on dit, ah mon Dieu, pourtant, j'avais un avion à prendre, le truc, mon devoir d'État, etc. Et puis l'avion tombe, le train déraille. Combien de fois avons-nous entendu ces histoires-là? C'est un mal pour un bien. Vous allez dire, j'ai raté plusieurs fois mon train, et je l'ai raté simplement. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alors, il ne s'agit pas maintenant d'essayer d'avoir une double vue en disant « Mais alors, qu'est-ce que le bon Dieu m'évite ?» etc. C'est de la curiosité, c'est stupide. Disons-nous simplement « Je souffre, voilà qu'il se trouve que je souffre. J'ai telle ou telle avanie, j'ai telle ou telle vicissitude, je souffre. Mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés. Mon Dieu, merci, parce que en cela, vous m'évitez quelque chose d'autre que j'ignore, que je ne veux pas savoir, mais je sais que vous m'évitez quelque chose de pire. » Vous m'évitez quelque chose de pire, et pas forcément dans l'ordre du physique, peut-être dans l'ordre, et certainement dans l'ordre du moral. Vous voyez, si je n'avais pas eu ces maux de tête, peut-être que je n'aurais pas songé à me tourner vers Dieu et à prier. J'aurais peut-être, perdu mon temps. Pensons-y, et faisons-en bon usage. Donc, expiation des péchés. Préservation de péchés plus graves, de péchés que autrement nous aurions fait si nous n'avions pas souffert. Troisièmement, c'est une troisième chose, on pourra en rajouter d'autres, la purification de notre cœur par l'exercice de l'amour de Dieu. Tout ce que nous souffrons, alors vous allez dire ça rejoint le premier, évidemment, tout ce que nous souffrons est voulu ou permis par Dieu, ça c'est une certitude. Parce que si nous arrivions à souffrir quelque chose qui n'était ni voulu ni permis par Dieu, ça veut dire que notre Dieu serait incapable de nous préserver de certaines choses. Et alors là, vraiment, d'une part, Dieu ne serait pas Dieu parce qu'il ne serait pas tout-puissant, et alors notre vie serait quelque chose de terrifiant, puisque nous saurions que nous ne pourrions même pas compter sur Dieu qui, à certains moments, serait incapable de nous protéger. Alors vous allez dire, mais loin de moi de penser cela. Alors pourquoi est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre que Dieu... ou bien était méchant, ou que Dieu laissait faire des choses contre sa volonté. Il veut tout. Vous allez dire, mais c'est terrible, vous ne savez pas ce que j'ai souffert. J'ai souffert ceci ou cela, et des choses terribles. Oui, bien sûr, je vois très bien. J'en ai rencontré. Tout ce qu'il faut dire, c'est Dieu a permis ceci, et c'est pour ça que je disais que c'est assez cruel, parce qu'il y a des souffrances, le fait de se taper sur un doigt, ou se tordre un ongle, etc., ou avoir une migraine, puis après il y a d'autres souffrances qui sont autrement terribles, et surtout quand elles sont infligées aux enfants, etc., bien sûr. Mais néanmoins, la vérité dogmatique est la suivante, toute souffrance nous est voulue ou permise par Dieu pour expier nos péchés, nous préserver d'autres péchés et purifier notre cœur. C'est-à-dire, c'est bien cruel, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas faite pour nous plaire, c'est nous qui sommes faits pour nous accorder avec la vérité. Et croyez bien que cette vérité permet aussi d'aller au-delà de certaines souffrances en les remettant dans leur perspective. Alors chacun s'occupe de ses souffrances, on ne va pas faire la leçon aux autres, ça serait trop facile. Que chacun utilise cette vérité que nous venons de formuler pour appréhender ses propres souffrances. Les moyens, il faut, avec tout cela, il faut se souvenir que puisque Dieu veut ou permet les souffrances, pour l'expiation de nos péchés, je le répète, la préservation de nos péchés et d'autres péchés la purification de notre cœur par la charité, alors il nous faut nous persuader, c'est un corollaire, que les moyens humains ou matériels ne sont que des causes secondes tout à fait indifférentes. C'est-à-dire, oui, mais telle personne m'a fait souffrir, c'est Dieu qui voulait que je souffre, pour expier mes péchés, pour me préserver, pour purifier mon cœur. Oui, mais cette personne est méchante, cette personne est méchante, cette personne a tué mon enfant, cette personne sera jugée par le juge et condamnée à mort.